Bonjour Alessandro Pignocchi.
Bonjour.
Alors, impossible de ne pas revenir sur le titre de cet ouvrage collectif. On ne dissout pas un soulèvement. Pourtant, mercredi dernier, comme l'avait annoncé Gérald Darmanin après les événements de Sainte-Soline, la dissolution des soulèvements de la Terre a été annoncée en Conseil des ministres. Alors, comment est-ce que vous réagissez suite à cette annonce ?
Ben, on s'y attendait, puisqu'on sait très bien que tout mouvement social ou écologiste, ou les deux dans le cas des soulèvements de la Terre, qui est susceptible d'inquiéter un tout petit peu les classes dirigeantes, fera l'objet de toutes les formes de répression dont ils disposent. Donc on savait qu'ils jouaient cette carte-là. Après, on bascule un peu dans l'inconnu, parce que c'est un groupement de faits. Encore une fois, il n'y a pas de structure juridique. Il y a maintenant 130 ou 140 000 personnes qui se revendiquent des soulèvements de la Terre. Mais quoi qu'il en soit, on est confiant sur le fait que la dynamique impulsée, les affects sur lesquels joue le mouvement des soulèvements de la Terre, qu'il contribue à clarifier et à préciser, vont se maintenir et continuer à grossir. C'est un mouvement qui est tellement pertinent politiquement, qui est tellement dans l'air du temps. C'est vraiment une proposition positive, l'aspiration à aller vers du mieux, à retrouver des formes d'organisation politique et d'autonomie matérielle qui nous permettent de vivre mieux, quoi. Pas seulement d'éviter le pire. Et ce désir-là de trouver d'autres façons de se lier au territoire, d'autres façons d'habiter, la reprise en main collective des activités paysannes, c'est des désirs qui parcourent vraiment les subjectivités collectives et qui ne vont pas se laisser dissoudre comme ça, bien au contraire, quoi.
Alors, le livre se présente comme un abécédaire. À chaque lettre de l'alphabet correspond une notion portée ou dénoncée par le collectif. Et à A, il y a accaparement.
C'est Philippe Descola qui a pris en charge ce mot fondamental. Alors, c'est une notion ancienne qui désigne, j'imagine, une multitude de choses, mais en particulier le fait de prendre des terres à des collectifs, des terres gérées en commun, pour les transformer en propriété privée, pour permettre leur exploitation par un individu ou une minorité d'individus. Et ce processus d'accaparement devient de plus en plus vital pour les classes dominantes, puisque les ressources se font de plus en plus rares. Donc là, ce n'est pas juste la volonté de s'enrichir qui motive l'accaparement des ressources, c'est vraiment, encore une fois, de se mettre à l'abri, quoi, de construire les conditions structurelles, institutionnelles, pour pouvoir bénéficier des ressources, notamment de la ressource en eau, un peu plus longtemps que les autres, quoi.
Il y a aussi un autre texte très fort à la lettre B, c'est « Blessure », signé d'une certaine Alix F., une jeune militante de 19 ans qui a été blessée à Sainte-Soline. C'est un texte qui dénonce, comme celui d'Alain Damasio ou celui de Virginie Despentes, l'extrême violence de la réponse de l'État face aux militants. Cette violence, vous la dénoncez vous aussi ?
On la dénonce évidemment, mais on ne s'en étonne pas non plus. Encore une fois, ils sont prêts à tout pour conserver les structures qui assurent leur domination et donc terrifier la population. Et ça, pour le coup, ça fonctionne et a raison. Et ça invite à être extrêmement imaginatif dans les modes d'action, parce qu'évidemment, militairement, ils sont infiniment plus forts que nous. Aller à l'affrontement militaire contre eux n'est absolument pas souhaitable et absolument pas faisable de toute façon. Et du coup, c'est extrêmement complexe, parce qu'il faut trouver des modes d'action qui évite que ce qui s'est produit à Sainte-Soline se reproduise, où on ne peut pas supporter ce niveau de cette quantité, ce niveau de blessure. Et en même temps, il faut trouver les moyens de leur faire peur d'une façon ou d'une autre, quoi. Parce qu'encore une fois, ça ne va pas être en leur demandant gentiment qu'on va obtenir quelque chose. Leur projet politique, leur projet d'écologie politique est extrêmement clair, quoi. C'est vraiment de se mettre à l'abri, quitte à faire sombrer le reste du monde, mais se mettre à l'abri quelques années de plus. Et on n'obtiendra rien. Et en fait, ça a été toujours historiquement le cas. Les mouvements, la très vaste majorité des mouvements sociaux qui ont obtenu des victoires un tout petit peu décisives avaient une composante émeutière, ou en tout cas une dimension qui était capable de faire peur aux classes dominantes, à la grande bourgeoisie, etc. Sans cette dimension de peur, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espoir d'obtenir quelque chose. Donc c'est à nous d'être imaginatifs, de trouver les moyens de maintenir une pression sur eux, de les inquiéter vraiment, quoi. Donc absolument pas par la manifestation institutionnelle qui, on l'a vu de façon particulièrement tragique dans le mouvement anti-retraite, ne sert vraiment plus à rien. Il faut trouver les moyens de les inquiéter sans nous mettre trop en danger, quoi.
Alors les inquiéter, justement, on vous reproche régulièrement la violence des actions. On parle même d'éco-terrorisme. C'était d'ailleurs une des raisons qui a poussé Gérald Darmanin à la dissolution du mouvement du soulèvement de la Terre. Vous préférez parler de désarmement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette notion ?
C'est une notion qui clarifie les choses, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des dégradations matérielles, on s'en prend aux armes de destruction écologiste que sont les infrastructures que l'État et les entreprises privées continuent à mettre en place. Parce qu'encore une fois, là-dessus, il faut être vraiment clair. Que ce soit les mégabassines qui aspirent à maintenir en place le système agro-industriel quelques années de plus, tous les contournements routiers dans le sud de la France contre lesquels on se bat et qui parient sur une augmentation massive des flux, sur une énorme augmentation de taille du port de Marseille et sur la nécessité notamment... pour accueillir du fret venu d'Asie, et donc la nécessité d'accroître la capacité des autoroutes à évacuer toutes ces marchandises. Le TGV Lyon-Turin aussi parie sur une augmentation du flux de marchandises dans les 20 ans à venir. Donc c'est vraiment extrêmement clair qu'ils n'ont absolument aucune intention d'infléchir la trajectoire du monde, quitte à le mener vraiment à sa destruction complète, ce qui va se produire. Et du coup, vraiment, il s'agit de les empêcher de nuire, quoi, et donc de s'en prendre à leurs armes. Et c'est en ça que c'est pas des dégradations matérielles, c'est de la neutralisation des armes qu'ils utilisent, quoi.
Et puis dans cet ouvrage, vous dénoncez aussi la séparation occidentale entre nature et culture. Vous écrivez d'ailleurs un texte que l'on retrouve à la lettre S comme saisonnalité. Vous proposez notamment une société organisée autour de l'oscillation saisonnière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'une telle société permettrait?
Alors, c'est pas pour toute la société, hein. C'est un ingrédient supplémentaire pour penser la façon de reprendre en main les activités de subsistance et notamment les activités paysannes. Parce que c'est le cœur du problème, en fait. C'est le cœur du projet, c'est comment on reprend en main la subsistance, comment on diminue notre dépendance collective au marché pour se nourrir, ce qui est une condition qui nous maintient dans un état de faiblesse politique extrême, quoi. Et donc comment, de façon territorialisée, on fracture l'hégémonie du complexe agro-industriel pour reprendre en main collectivement nos façons de nous nourrir, nos façons de pratiquer l'agriculture et la paysannerie. Et sauf que quand on pose ce projet-là à reprendre en main notre subsistance, évidemment se pose la question des habitants des villes, parce que c'est plus facile de dire on va reprendre en main la paysannerie quand on habite à la campagne que quand on habite en ville. Et on a souvent l'impression, quand on pense à ça, que c'est du tout ou rien, quoi. Que soit on habite en ville et on est dépendant du marché pour se nourrir, soit on lâche tout et on part vivre à la campagne. Et donc, je propose comme outil de pensée, hein, pour l'instant, cette notion de saisonnalité qui était très courante dans l'histoire de l'humanité et qui l'est encore dans certaines régions du monde et qui consiste en des déplacements saisonniers des centres urbains densément peuplés vers les campagnes au moment où les activités agricoles ont un fort besoin de main-d'œuvre, quoi. Ce qui permettrait déjà des vies plus riches, des vies oscillantes, quoi, c'est-à-dire des vies plus diverses, plus chatoyantes, et de commencer à se ressaisir de la subsistance en organisant des réseaux de ravitaillement entre campagne et ville, et donc de commencer, oui, à se ressaisir de cette question-là, sans imaginer quelque chose d'infaisable, c'est-à-dire une désurbanisation massive et soudaine, quoi. Ça donnerait aussi l'occasion d'expérimenter d'autres façons de s'organiser, de commencer à retrouver un savoir-faire d'organisation collective qu'on a massivement perdu et qu'il est absolument essentiel de reconstruire si on veut retrouver un petit peu de force politique. Et donc voilà, mais pour l'instant, c'est un outil de pensée, mais ça semble, en tout cas, ça donne un ingrédient supplémentaire pour penser comment on peut reprendre en main collectivement nos activités de subsistance, y compris quand on a la malchance d'habiter en ville, quoi.
Merci Alessandro Pignocchi. Je rappelle que cet ouvrage collectif « On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour le soulèvement de la terre » est paru aux éditions du Seuil et que l'intégralité des droits d'auteur sera reversée à l'association.